Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
L'affaire Blanche Garneau, chapitre 20, l'admissibilité des aveux. Comme on l'a vu au dernier épisode, et oui, je dis souvent ça, je pense, on revient souvent, mais c'est normal, il y a une suite, c'est une série. Oui, une série de plusieurs chapitres d'ailleurs, je sais même pas combien par cœur, attendez, je vais vous dire ça. Il y a au moins 36 chapitres, 37, ouais, c'est ça, 37 plus un index photo, que vous n'aurez pas droit, évidemment, parce que c'est un podcast. Mais il y a aussi une conclusion à la fin, un genre d'épilogue et une conclusion. Donc, voilà, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Donc, il en reste quand même un peu. Il reste au moins 17 chapitres. Alors, oui, je me répète, comme on a dit à l'épisode précédent, en tout cas, c'est ce qu'il aurait fallu retenir de l'épisode précédent, c'est que la preuve semblait fragile contre Binet et Palmer. Et en tout cas, ce que ça donnait comme idée, c'est que la couronne semblait s'appuyer sur les aveux, semblait avoir misé, dans le fond, le tout pour le tout, sur les aveux de Binet. On dirait qu'on n'avait rien d'autre. Tout ce qu'on avait présenté jusqu'à maintenant, c'était le témoignage de Louis Dubé, un co-détenu de Binet, qui, bon, corroborait un peu ce qu'il a dit, mais ça reste que c'est majoritairement du oui-dire, alors c'est pas très, très solide comme preuve. Alors voilà, c'est d'où l'importance. J'ai l'impression que les procureurs de la couronne se rongeaient les ongles à savoir est-ce que les aveux seraient admissibles ou pas. Est-ce que le juge déciderait de les accepter comme preuve ou de les rejeter? Je pense que c'était tout un défi et... C'est justement le témoignage de Louis Dubé qui permet de s'en aller vers ça dans un ordre chronologique. Donc, c'est pour ça que ce chapitre-ci, on va voir justement, c'est la question. Est-ce que les aveux ont été acceptés en preuve ou non? Donc, pour sa part, le juge, lui, devait... En tout cas, pour faire ça, on a fait une preuve de voir-dire... Pour ceux et celles qui sont profanes en la matière des procès, et la première fois que je suis tombé là-dessus, moi aussi, j'ai fait comme « Hein? De qu'est-ce que ça? » Fait que c'est ça, mais une preuve de voir dire, c'est un peu comme si on arrête le procès, ben le procès s'arrête pas vraiment, les gens restent là, mais on rouvre un mini-procès à l'intérieur du vrai procès pour admettre, dans ce cas-ci, la question c'est d'admettre ou non les aveux de Binet. Donc, c'est pour prendre une décision, si on veut. On s'arrête un instant. Et parfois même, ça arrive aussi que le jury, les 12 jurés, sont exclus pendant qu'on débat de ça et tout le tralala. Donc, donc, pour cette preuve de voir dire là, parce qu'on sait que les aveux, ça commence avec qui? Ben, ça commence avec Dieudonné Daniel Lorrain, le chef des détectives provinciaux, pardon. Donc, c'est un peu comme si c'était le directeur aujourd'hui de la SQ. Et à cette époque-là, il était âgé de 49 ans, donc c'est lui qu'on appelle comme témoin. Et bon, il a d'abord raconté comment ça s'était passé, comment qu'il avait été informé de cette piste-là, donc de Binet, parce qu'on se rappelle qu'après... Après l'épisode d'Henri Duval, il se passait pas grand-chose. Et la police de Québec semblait d'ailleurs nager dans le néant, pour pas dire dans le bordel total. Et c'est la police provinciale qui a eu ce tuyau-là. Donc, effectivement, on l'a déjà vu, mais il explique que c'est Charles Lanctot, le procureur général de la province, qui l'a contacté. Le 24 décembre 1920, donc la veille de Noël, pour lui demander de se rendre immédiatement à Sudbury, en Ontario, pour y rencontrer le fameux avocat Maître Bédard. Le 3 janvier 1921, Lorrain se chargeait ensuite de confier la mission à son détective Rioux, de commencer les recherches visant à retrouver Raoul Binet, alias Legault. Donc, avec des aveux comme ça, c'est sûr qu'on voulait en savoir plus, hein, c'était quand même important. Donc, on voulait mettre la main sur Binet. Et c'est à Sudbury que l'arrestation s'est effectuée le 21 janvier, après quoi Ryu a conduit le prévenu à Montréal, au bureau du capitaine ou du directeur Lorrain. Évidemment, Lorrain, en bon policier, en bon directeur de police, c'est presque un politicien rendu là. Il faut jouer des coudes pour se rendre aussi haut dans la hiérarchie, comme c'est un peu aujourd'hui le cas dans la SQ. Voilà, et c'est sûr qu'il a dit que lui, il avait respecté la procédure, évidemment. Et c'est justement à ce moment-là que Maître Lemieux semble avoir découvert une faille, justement, dans le scénario du chef de la police. Pourquoi? Eh bien, parce que le mandat d'arrestation stipulait qu'un prisonnier devait être immédiatement conduit devant un juge. Oui, mais c'est pas ce qui a été fait. Ryu l'a amené dans le bureau du directeur Lorrain, plutôt que de l'amener devant un juge. Évidemment, ben, Lorrain s'est défendu tout de suite en disant que c'était un dimanche. Oui, évidemment, les juges ne travaillent pas le dimanche. Ils travaillaient le samedi à cette époque-là, mais pas le dimanche. Donc, il a donné ça comme explication avant de finalement admettre qu'il avait pourtant l'habitude de faire conduire tous les prévenus dans son bureau. Et selon lui, bien, Binette était anxieux de faire des aveux. Appelé à son tour dans la boîte des témoins, Georges Hector Rioux, le fameux détective favori du capitaine Lorrain, lui a juré, il est venu jurer avoir bien lu les droits à Binette, parce que on le voit souvent dans les films, les séries et tout ça depuis belle lurette, là, c'est vraiment pas nouveau. Mais vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors d'un éventuel procès. Ouais, la fameuse phrase. Mais ça, c'est vieux comme la lune, et ça, c'est obligatoire de faire ça à un suspect, et c'est obligatoire de lui dire aussi pourquoi on l'accuse, pourquoi on l'arrête pas pour un ticket, hein, ici, c'est pas un excès de vitesse, hein, c'est un excès de violence, plutôt. Donc, c'est ça, et il fallait absolument qu'on vérifie ça, savoir si ça avait été dit. C'est sûr que c'est la parole de Ryu. C'est bon, c'est un détective. C'est sûr qu'il va dire oui, je lui ai lu ses droits. Mais lire ses droits, c'est obligatoire. Donc, pour ceux et celles qui étaient au courant, ben tant mieux, vous le savez déjà, mais je pense que c'est bon de l'expliquer. Parce que c'est important. Parce que c'est arrivé, oui, effectivement. Dans des cas récents, j'en ai pas en tête, là, mais dans des cas anciens, oui, c'est arrivé quelquefois que ça n'avait pas été lu. Puis là, c'est le bordel. Bon, ben à ce moment-là, ça devient... L'arrestation, même en tant que telle, peut devenir illégale. En tout cas, c'est pas bon pour la poursuite à ce moment-là. Mais le petit bémol, c'est que oui, il a dit qu'il avait lu les droits à Binette, mais seulement une fois à Montréal. Donc, il y a une ouverture à se faire taper ses doigts un petit peu. Et on apprend aussi que le chef Lorrain lui avait demandé de garder le prisonnier chez lui, dans sa maison privée. Eh oui, c'était comme ça à l'époque. Hein, ouais, le policier t'arrête puis t'emmenait chez eux. Hey, c'est le fun, tu couches avec dans la chambre du bébé, là. Chance que t'as pas accusé de pédophilie. Et c'est comme ça que Binette aurait, en tout cas, si on suit au témoignage des policiers, a habité avec la famille de Ryu jusqu'au 17 février. C'est pour ça, c'est là qu'on l'a caché. Tu sais, le fameux chapitre là, qu'on a vu ensemble quand les journaux se questionnaient, puis là, ils multipliaient les erreurs. Les journaux essayaient de savoir absolument qu'est-ce qui devenait de cette enquête-là, de cette piste. Il y avait une rumeur qui courait, c'est sûr, mais on n'arrivait pas à mettre la main sur Binette. Ben, on sait maintenant pourquoi. C'est que, environ pendant un mois, ben, il était caché dans la maison privée de Ryu. Et selon Ryu, justement, c'était la première fois à sa connaissance qu'on procédait de cette façon. Est-ce que son supérieur avait voulu garder le suspect loin des médias pour attendre et faire un coup d'éclat? Je sais pas. C'est une question comme ça que je lance. Et ensuite, qui on a appelé dans la boîte des témoins? Eh oui, nul autre que Raoul Binette, donc il n'avait pas terminé tout à fait ses déclarations publiques. Sauf que, étant donné que c'est une preuve de voir-dire, donc le seul but de ce voir-dire-là, c'est de déterminer si les aveux ont été récoltés de façon correcte. Donc, on pourrait pas, la couronne ne pourrait pas le questionner sur n'importe quoi. Là, on ne pourrait pas le questionner sur le meurtre, revenir sur tout ça. Donc, c'était très, très, très limité pour la couronne. Mais c'est ça. Il faudrait voir justement plus tard si il acceptait de témoigner pour sa défense. À ce moment-là, là ça changerait toute la donne. Eh bien, loin d'avoir la langue de bois, ben Binette, lui, il a ouvert la trappe, ben il s'est mis à contredire les policiers en déclarant à propos de Ryu que, et j'ouvre les guillemets, il ne m'a fait aucune menace, mais beaucoup de promesses. Et oui, ça aussi, on n'a pas le droit. Il faut lire les droits à l'accusé, mais on ne peut pas l'interroger en lui faisant des promesses. Par exemple, je sais pas, moi, je vais t'inviter tous les samedis soirs après si tu acceptes de me dire la vérité. Je vais te payer des paquets de cigarettes si tu acceptes de me dire ça. Non, ils n'ont pas le droit de faire de promesses, comme ils n'ont pas le droit de faire de menaces non plus. Hein? On se doute bien qu'il y a certaines méthodes à une certaine époque qui ont été utilisées, dont le fameux bottin téléphonique. c'est un classique, mais bon, on sait que les policiers n'ont pas toujours été tendres, puis des fois, il y a des coups qui pleuvaient, tout ça. Et quand le prisonnier apparaissait après sa première comparution avec un œil au beurre noir, ben tu te dis, OK, on a des petits doutes. Et aussi, après son arrestation à Sudbury, à bord d'un train qui les ramenait à Montréal, Ryu l'aurait informé que Palmer l'avait dénoncé avant de lui conseiller, et j'ouvre les guillemets, là c'est Ryu qui parle, « Si j'étais à ta place, avec mes conseils que je vais te donner, Palmer, c'est un maudit anglais. Accuse-le. Tu n'iras jamais en prison. Tout ce que tu diras, je le prendrai moi dans la cour. » Tu parleras contre lui, il sera condamné et toi, tu t'en iras chez vous. Hein? Et je ferme les guillemets. C'est quand même surprenant comme déclaration. Qui on doit croire dans ça? Est-ce que Binette était en train de revenir tranquillement sur ses aveux? Maintenant qu'il était protégé par des avocats, il était peut-être mieux conseillé aussi. Ce que ça lui permettait de réfléchir un peu plus, d'être moins nerveux, donc de se rappeler certaines choses. Ou si, bon, il a tout simplement menti, puis que les policiers Ryu n'ont jamais dit ça. Mais c'est quand même assez précis comme déclaration. C'est je sais pas pour vous, mais vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais c'est quand même un autre doute qui s'ajoute à plein d'autres. Là. Et comme si c'était pas assez, ben, Binette, il a dit que, finalement, quand il a été mis en garde, quand il a eu sa fameuse « t'as le droit de garder le silence, blablabla », ben, que ça s'est passé, ça, seulement un mois après son arrestation. Hein? Ce qui fait dire que si toutefois ça, c'est vrai, ça nous fait questionner, est-ce que les deux grands détectives de la province, parce qu'à cette époque-là, quand vous fouillez là, dans les journaux, les années 20-30, les noms de Lorrain et de Ryu sont quand même assez connus. Peut-être même un petit peu avant, tout ça. Mais est-ce que ça fait dire justement que, étant donné l'ampleur du cas de Blanche Garneau, parce que là, c'était provincial cette affaire-là, et que ça traînait, il y avait de la pression beaucoup, est-ce qu'ils n'ont pas cédé seulement à la pression pour aller plus vite? Tourner les coins ronds et faire condamner finalement quelqu'un pour en plus avoir le privilège d'en tirer les honneurs. Je sais pas, je les connais pas. Malheureusement, je connais pas leur personnalité parce qu'ils sont décédés depuis longtemps maintenant. Est-ce que c'était ce genre de policier-là ou non? Je veux pas salir personne, mais c'est sûr que ça laisse des doutes. Et bon, les policiers... comment je dirais ça? Dans cette affaire-là, jusqu'à maintenant, dans Blanche Garneau, on a révélé tellement d'anomalies, de choses qui... Non, les policiers de Québec non plus, là, sont loin d'être parfaits. Hein? Mais j'ai l'impression que les policiers provinciaux n'ont plus, puis qu'il y avait une certaine compétition aussi entre la police provinciale et les polices municipales. Peut-être parce que c'était encore récent, ça faisait quand même 40-50 ans que la police provinciale existait, mais quand même, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, la SQ est très, très, très bien établie, et elle n'a pas à être en compétition, je pense pas, avec qui que ce soit, là, à moins, c'est sûr qu'il peut y avoir des frictions quand même, mais je pense pas que elle a un complexe d'infériorité, là. Je pense que ça répond. Et ensuite, ça a été au procureur Aimé Marchand, donc du côté de la couronne, à se lever de son siège, et lui, il a fait avouer à Binette son changement d'identité pour Legault aux environs du 3 août 1920. Donc, c'est quelques jours après le meurtre. C'est important de souligner. Donc, quelqu'un qui décide de changer de nom quelques jours après un meurtre, qu'est-ce que ça veut dire? Trois petits points. Évidemment, vous aurez compris que c'est à son tour à Maître Marchand de miner la carte, de jouer la carte destinée à miner la crédibilité du témoin. Et justement, il y a cette conversation entre Maître Marchand et Binette qui est intéressante et que je vais vous lire. « N'avez-vous pas dit, c'est lui, Palmer, qui l'a tué? Oui, je l'ai dit. Dans cette circonstance-là? Oui, mais c'est faux. N'avez-vous pas dit, dans cette circonstance-là, c'est lui, Palmer, qui l'a tué? Oui, je l'ai dit, mais c'est tout faux. C'était pour deux raisons. Donnez vos raisons, intervint Maître Lemieux. La première raison, je n'étais pas dans Québec moi-même, et la deuxième raison, je n'ai jamais vu Palmer dans Québec. » OK. Donc là, je ferme les guillemets, là, vous avez compris. Donc, c'était une façon de se revenir sur ses aveux. Ça ne durera pas longtemps, là, cette chose-là, parce qu'évidemment, on était restreint dans les questions par rapport à M. Binette. Mais là, ça veut dire que là, il s'enlève complètement de la scène. Là, c'est avec cette petite phrase-là, dans le fond, il s'enlève de Québec au moment du meurtre. Donc, il n'était plus à Québec. Hein? Fait que là, ça vient tout défaire ses aveux. C'est comme, dans le fond, s'il disait « pouvez jeter mes aveux, ça compte plus ». Et il disait aussi qu'il n'avait jamais vu Palmer à Québec. Donc, il avait peut-être vu Palmer ailleurs, mais du moins pas à Québec. Donc, c'est comme si on les effaçait, les deux hommes de Québec, au mois de juillet 1920. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Est-ce que c'est une boutade de Binette qui revient là, dans le box des témoins puis qui dit n'importe quoi juste pour brouiller les cartes? Est-ce que ça l'amuse? Tu sais, c'est peut-être un genre de psychopathe qui aime ça rire du monde, qui aime ça foutre le bordel même dans les tribunaux. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'il s'est... Peut-être que ses premiers aveux, il les a fait sous pression policière et que là, il revient sur ses aveux? Ou si c'est pas le contraire, est-ce qu'avec l'aide de ses avocats, il n'est pas en train de trouver une astuce pour mieux s'en sortir? Vous savez, là, il y a comme trois possibilités, là. Il y a le fait que, aussi, qu'au départ, il a fait des aveux, peut-être, pour se rendre intéressant. Hein, vous aurez... Ceux et celles qui ne sont pas habitués aux affaires policières, là, qui vont dire, ben voyons donc, ça se peut pas faire des faux aveux. Laissez-moi rire. Eh oui que ça se peut faire des faux aveux. Il y en a même qui d'ailleurs deviennent spécialistes. On a même vu une dame, là, je me souviens pas de son nom, lors de l'enquête on Discovery, là, vous revisiterez les premières balados. Une dame qui s'amusait quasiment à inventer des histoires pour pouvoir témoigner quasiment dans chaque procès important qui se passait à Québec. Et bon, on a fini par comprendre pourquoi que finalement l'enquête on Discovery avait été ouverte pour rien ou presque, mais bon. c'est ça. Mais il y a toutes sortes de témoins et tout ça. Et souvent, ce qu'on a entendu aussi, c'est de moins en moins vrai, et je l'espère que ça va être de moins en moins vrai, mais les causes criminelles qui reposent seulement sur des aveux, c'est très fragile. Alors qu'à une certaine époque, je parle surtout en France, c'était très populaire, mais ici aussi, aussitôt qu'il y avait des aveux, c'était bon, ok, c'est beau, on l'a, paf, on s'en va en procès, on le condamne, puis on n'en parle plus pendant 20-30 ans, sinon même la pendaison à une certaine époque. Donc, on bouclait l'affaire rapidement aussitôt qu'on avait des aveux. Mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on fait des faux aveux, hein? Il y en a vraiment plusieurs, là. Je les expliquerai pas tous ici aujourd'hui, là, mais il y en a vraiment plusieurs. Il y en a sous la pression policière, mais il y en a pour d'autres raisons aussi. Pour se rendre intéressant, pour protéger quelqu'un, parce qu'on est on est mal à l'aise avec pour révéler d'autres choses. Tu sais, il y a des maris, par exemple, qui trompent leur femme, puis que là, ben, quand leur femme meurt, ben, ils se mettent à mentir pour cacher leur liaison. Il devrait pas, parce que s'il est vraiment innocent, faut qu'il le dise tout de suite. Mais bon. Alors voilà, ça vient encore mêler les cartes, hein, comme je vous dis, depuis le début, cette affaire-là était comme C'est comme si l'affaire Blanche Garneau était vouée à l'échec dès le début et que, bon, c'était destiné à rester une affaire non résolue. Mais je ne veux pas parler trop vite, le procès n'est pas fini. Hein? On jase, là, mettons. Ensuite, le juge Gibson a refusé à Maître Marchand la permission de lire la déclaration que Binette avait faite lors de l'enquête préliminaire afin de démontrer au jury à quel point cet homme pouvait lui-même se contredire. Mais là, la couronne semblait désespérée un peu. On voulait absolument faire lire les aveux parce qu'on voulait que le jury connaisse l'histoire que Binette avait racontée pour essayer, évidemment, de le faire condamner. Parce que là, il vient de dire carrément autre chose. Il a fait volte-face, si on veut. Ensuite, les audiences ont repris au matin du samedi 29 octobre 1921 avec cette réponse du juge Gibson. Vu que la preuve faite ne révèle pas que les déclarations que Binette aurait faites au détective Lorrain le 23 janvier étaient induites soit par des menaces ou par des promesses, menaces ou promesses qui auraient été faites soit par le chef Lorrain lui-même ou par son subordonné, le détective Rioux, je suis d'avis que la preuve des déclarations que Binette aurait faites le 23 janvier est admissible. Alors voilà, on a notre réponse, les aveux sont admissibles en preuve. Évidemment, quand que Rioux par la suite est revenu, on a continué l'explication sur le voir dire. Quand Rioux a expliqué qu'il avait gardé Binette chez lui, ben là, ça a fait sursauter Maître Laverne. Vous vous souvenez du jeune Maître Laverne, qui était un défenseur de la langue française et tout ça, et qui mourra très jeune aussi, on le verra dans l'épilogue. Lui, ça l'a fait sursauter, puis là, lui, c'est parce qu'il se demandait pourquoi l'avoir gardé chez lui là pendant un mois? On avait le temps d'aller le porter en prison dans une cellule à quelque part. Là. Donc lui, Maître Laverne, il pensait que c'était pour... il avait peut-être raison aussi, que c'était pour garder une pression sur Binette. Donc toujours l'avoir à l'œil, toujours l'avoir pour discuter, dire « Ok, là, c'est ça que tu dis, là, c'est ça que tu maintiens. » Et puis même pendant ce mois-là, est-ce qu'on a travaillé l'histoire des aveux Tu sais, si on a voulu lui mettre des aveux dans la bouche, ben, tu sais, on avait un mois pour travailler tout ce scénario-là. Et exactement comme on l'avait fait avec Henri Duval pour lui faire indiquer la scène de crime. Donc, si on demandait à un suspect est où la scène de crime, et puis qu'il l'indique de façon précise, ben, ça donne un plus à ses aveux. Donc, on a fait la même chose avec Binette. Par contre, on se souvenait pas de la date. Ça, c'est à Rioux là, qu'on a demandé ça. Mais la première fois, il dit qu'il était accompagné du chef Lorrain. Et Maître Lemieux lui demande Binette, bon, comment ça s'est passé finalement cette affaire-là? C'est tout le temps qu'il était sous notre garde. Ça, c'est la réponse de Rioux. Il nous a conduit à partir de la rue Saint-Joseph. Il nous a montré le chemin qu'il avait suivi avec Cole. Vous aurez compris que Cole, c'est un autre alias pour Palmer. Et il nous a fait passer par le pont Parent. Il nous a montré où Cole avait rencontré la fille. Et après ça, il nous a montré l'endroit où la fille avait été trouvée. Et je puis dire qu'alors, M. Binette était à 50 ou 75 pieds en avant de nous autres. Lorsqu'il vous a montré l'endroit où le cadavre avait été trouvé? Oui, monsieur. Est-ce que c'est vous autres qui le conduisiez sur les lieux ou si c'est lui qui vous a conduit? C'est Binette qui nous conduisait. Il était à 50 ou 75 pieds de nous autres. C'est lui qui nous conduisait. Donc, on comprend que Binette avait fait la même chose, même scénario et même résultat. Il l'avait trouvé, la fameuse scène de crime, sans qu'on lui ait dit à l'avance. Donc, il a dit, c'est là que ça s'est passé. Donc, c'est là je comprends aussi un peu plus. Je me mets dans la peau du détective, puis c'est quand même une démonstration impressionnante. Si le suspect se trompe pas, puis il vous le dit exactement, ben tu dis, ben crime, c'est vrai, c'est un point de plus. Mais... il y a toujours un petit doute de quelque chose. Pas pour rien que Houdini était populaire à ces époques-là. Il y en a qui avaient des trucs. Et Ryu, tu sais, pour être précis, là, Ryu a même dit que le point qu'il a indiqué, c'est exactement le point où Blanche Garneau a été trouvée. Et je ferme les guillemets, ce sont ses paroles. Donc, on ne pouvait pas se tromper. Et pourtant. Ensuite, on connaît certaines stratégies de la part de la défense, parfois, qui essaie de semer le doute un peu n'importe comment. Hein. Là, on continue à le questionner un peu de façon banale, si on veut. Là. Heureusement, ben, Maître Marchand était à l'affût, il écoutait. Il va s'objecter, d'ailleurs. Mais en l'interrogeant Ryu, tout ça, on dit, bon, ils ont passé par là, puis là, il y avait un restaurant sur l'île du parc Victoria. Et l'avocat de la défense lui demande, est-il à votre connaissance, M. Ryu, que les deux Grecs qui tenaient ce restaurant sont disparus depuis ce temps-là? Alors, Maître Marchand s'est objecté en considérant que cette question ne relevait pas de l'examen en chef, mais vraiment pas du tout. Et la réponse a cependant été permise par le juge. C'est curieux, mais le restaurant, semble-t-il, n'avait aucun rapport depuis le début avec l'affaire Blanche Garneau. Mais bon, il est obligé de répondre « Non, monsieur », a répondu Ryu. « Est-il à votre connaissance que ce restaurant a été fermé 2 jours après la disparition? » « Non, monsieur. » « Vous n'avez pas dirigé vos recherches de ce côté-là, n'est-ce pas? » « Non. » « Est-il à votre connaissance qu'un livret de banque aurait été trouvé près du corps de la victime? » « J'en ai entendu parler, je ne l'ai pas vu. » « Est-il à votre connaissance que dans ce portefeuille... » Là, il a été interrompu. Enfin, une objection, cette fois, a été maintenue par le juge, donc ça arrête là, le questionnement. Mais on peut se questionner, justement, sur ces choses-là. C'est sûr que les deux Grecs, là, on n'a jamais su davantage de détails à ce propos-là. Mais les réponses de Ryu, est-ce que ça veut dire que la police provinciale avait bien fait sa job? Parce que là, il y a des éléments qui n'étaient pas au courant. Ils ont entendu parler du livret de banque, mais ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas demandé à le voir. Et ils n'étaient pas au courant aussi pour les Grecs, donc... est-ce qu'ils auraient fallu qu'ils enquêtent sur tous les détails sur l'île? Bon, à qui appartenait le commerce le plus proche de la scène de crime? Qui, sur les conducteurs de tramway aussi, est-ce qu'il aurait fallu faire une enquête sur chacun d'eux, ceux qui travaillaient, les horaires, les cédules, tout ça? Est-ce que ça a été fait seulement? Et là, on rappelle vers la fin, on rappelle le chef Lorrain à la barre. Et là, il explique que c'est à la demande de Binette qu'il l'a placé chez Ryu, plutôt qu'en prison. Hein? Il est bien fin, lui. Un prisonnier accusé de meurtre, du pire meurtre qu'il y avait à l'époque, lui demande « Bon non, je peux pas aller en prison. Est-ce que je peux aller chez monsieur le détective Ryu à place dans sa famille? » Elle lui dit « Oui. Ben ouais, on va le gâter un peu, on va le bichonner, pas de problème. Il n'y aura pas à vivre dans les milieux humides des prisons, les milieux de conditions exécrables. » Alors voilà. C'est quand même curieux, là, cette réponse-là. Là. Bon, finalement, avec tout le blabla qui s'est passé autour des aveux, ben, comme je le disais tantôt, ils ont été acceptés et on les a déposés officiellement sous la cote P10. Donc, c'est le greffier Gendron qui en a aussitôt fait la lecture au jury. Alors, la couronne venait de gagner son point, elle venait de gagner son pari, si on veut, parce que c'était quasiment un pari, cette affaire-là. Heureusement, ils l'ont gagné, parce que imaginez si les aveux de Binette n'avaient pas été acceptés en preuve. Sérieusement, je pense que la défense aurait pu demander tout de suite un non-lieu, un arrêt des procédures, puis le procès se serait terminé là. Bref, ça aurait pu continuer aussi, puis continuer à dépenser l'argent des contribuables, hein, n'est-ce pas? Ben oui, des procès, des fois inutiles, ça arrive. Donc à ce moment-là, il faut s'imaginer le greffier Gendron qui lit toute la déclaration, les aveux de Binette au juré. Donc, je vais vous épargner ça, mettons. Déjà que ça a été pénible de lire ça, que c'est un peu décousu, un peu de travers. Si vous voulez réécouter pour étudier les détails, si vous êtes vraiment, vraiment analyste dans l'âme, ben vous irez écouter les balados concernant les aveux de Binette. Sinon, on va continuer à les analyser ensemble au fil des prochains chapitres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le prochain épisode, d'ailleurs, sera la fin de la preuve présentée par la couronne. Donc, on va voir les derniers témoins de la couronne. Et on n'en a pas pour très longtemps. Et après ça, ce sera un autre épisode suivant. La preuve de la défense. Parce que la défense va avoir, comme on dit, je me répète, mais il va avoir une défense à présenter, donc une stratégie. Parce que ça arrive aussi que les défenses n'ont rien à présenter. Et ça conclut le procès tout de suite. Ils vont avoir surtout, je le dis un petit peu à l'avance, des fois ça vous prépare, mais surtout une preuve d'alibi. On va voir que, comme Binette vient de le dire, que ni l'un ni l'autre n'était à Québec le jour du meurtre. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer lors de la défense.